Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 16, Le pillage. La garnison du château, surprise et effrayée, avait néanmoins tenu bon pendant un certain temps. Mais comme les gens de Liège étaient de beaucoup supérieurs en nombre, les assiégés, ne pouvant pas être partout à la fois, sentaient leur courage fléchir. D'ailleurs, parmi eux, il y avait des mécontents, sinon des traîtres. Les uns demandaient quartier, les autres, abandonnant leur poste, cherchaient à s'enfuir du château. Beaucoup se précipitaient du rempart dans le fossé, et ceux qui ne s'y noyaient pas, jetant tous les insignes qui pouvaient les faire reconnaître, sauvaient leur vie en se mêlant à la foule des assaillants. Quelques-uns, cependant, par attachement pour la personne de l'évêque, se groupèrent autour de lui et continuèrent à défendre la grosse tour où ils s'étaient réfugiés. D'autres, enfin, ne comptant point recevoir quartier, ou bien par un mouvement de courage désespéré, tenaient encore en certains endroits. Mais les assaillants avaient pris possession des cours et des étages inférieurs du château, et s'occupaient à pourchasser les vainqueurs et à piller. Au milieu de ce désordre, un homme, qui semblait chercher la mort, s'efforçait de se frayer un passage jusqu'à cette scène de tumulte et d'horreur. Quiconque aurait vu Quentin Durward dans cette nuit fatale, sans connaître les motifs de sa conduite, l'aurait pris pour un fou furieux. Mais si on avait pu les deviner et les apprécier, l'on aurait reconnu en lui un véritable héros de roman. Comme il retournait à Schoenwald, il rencontra plusieurs fugitifs qui cherchaient à gagner les bois. Ces gens l'évitaient comme un ennemi, parce qu'il marchait vers le château, dont il s'éloignait en toute hâte. Quand il en fut tout près, il put entendre et même voir des hommes qui se jetaient du mur du jardin dans le fossé, et d'autres qu'on y jetait de force. Son courage ne fléchit pas un seul instant. Il n'avait pas le temps de songer à la barque, et d'ailleurs la poterne était obstruée par les fugitifs que des poussées fréquentes précipitaient dans le fossé. Quentin se jeta résolument à l'eau près de l'endroit où se trouvait la petite porte du château, dont le pont-levis était levé. Après avoir évité, non sans peine, les malheureux qui, sur le point de se noyer, cherchaient à s'accrocher à lui, il saisit une des chaînes du pont-levis qui pendait à sa portée et, à la force des poignets, s'éleva jusqu'à la plateforme. Au moment où, à l'aide de ses mains et de ses genoux, il essayait de se dresser, un lansquenet arriva, tenant à la main une épée teinte de sang. Il levait déjà le bras pour frapper Quentin lorsque ce dernier s'écria d'un ton d'autorité. « Et quoi? L'ami, est-ce comme cela que vous aidez un camarade? Tendez-moi la main. » Le soldat, sans rien dire, et avec une certaine hésitation, le prit par le bras et l'aida à se relever. Alors, sans lui laisser le temps de la réflexion, l'Écossais reprit du même ton de commandement. « À la tour de l'Ouest, si vous voulez devenir riche. Le trésor du prêtre est dans la tour de l'Ouest. » Ces paroles eurent de l'écho de tous les côtés. « À la tour de l'Ouest! Le trésor est dans la tour de l'Ouest! » Les traînards qui étaient à portée de les entendre se précipitèrent comme une bande de loups furieux dans la direction opposée à celle que Quentin avait décidé de suivre, coûte que coûte. Prenant les allures d'un vainqueur, il traversa le jardin sans rencontrer autant d'obstacles qu'il se l'était figuré. Une partie des assaillants avait été entraînée par le cri à la tour de l'Ouest. Les autres étaient appelés par les cris de guerre et les sonneries de trompettes pour résister à une sortie désespérée des défenseurs de la grosse tour, qui avaient résolu de se frayer un passage, ayant l'évêque au milieu d'eux. Quentin courait plutôt qu'il ne marchait. Son cœur battait avec violence, et il se recommandait aux puissances célestes qui l'avaient protégé jusque-là, décidé à réussir ou à périr dans son entreprise désespérée. Tout à coup, trois hommes se précipitèrent sur lui, la lance en arrêt, en criant « Liège! Liège !» Il se mit sur la défensive, mais sans frapper, et répondit « France! France! Amis de Liège !»« Vive la France !» crièrent les bourgeois de Liège, et ils passèrent outre. Bref, Quentin commença à espérer qu'il finirait par se tirer d'affaire, grâce à son caractère supposé d'émissaire du roi Louis, instigateur secret des insurgés de Liège et protecteur de Guillaume de la Marck. En arrivant près de la tourelle, il frissonna en voyant plusieurs cadavres qui obstruaient la porte. Il en écarta deux à la hâte et allait en enjamber un troisième, lorsque le prétendu mort le saisit par ses vêtements et le supplia de s'arrêter un instant pour l'aider à se relever. Quentin, pour se débarrasser de lui, allait le dépêcher pour tout de bon, lorsque l'autre lui dit: J'étouffe dans mon armure. Je suis le syndic pavillon de Liège. Si vous êtes pour nous, je vous enrichirai. Si vous êtes contre nous, je vous protégerai. Mais ne me laissez pas mourir de la mort d'un porc étouffé. Au milieu de cette scène de sang et de confusion, Quentin eut la présence d'esprit de songer que ce dignitaire pourrait protéger sa retraite et celle de la comtesse. Il remit donc le syndic sur ses pieds et lui demanda s'il était blessé. Blessé, non, du moins je ne le crois pas, répondit le bourgeois, mais j'ai absolument perdu la respiration. Asseyez-vous donc sur cette pierre et reprenez haleine, dit Quentin. Je reviens à l'instant. Pour qui êtes-vous? Lui demanda le bourgeois en le retenant. Pour France, répondit Quentin en tâchant de s'esquiver. Quoi? C'est mon joli petit archer, dit le digne syndic. Non, puisque j'ai été assez heureux pour trouver un ami dans cette nuit terrible, je ne le quitterai pas, je vous en réponds. Allez où vous voudrez, je vous suis. Et si je pouvais réunir quelques-uns des bons lurons de notre compagnie, je pourrais vous rendre service pour service. Mais ils sont tous dispersés. Or, quelle nuit épouvantable! En parlant ainsi, il se traînait après Quentin, qui l'eût volontiers laissé en arrière. Mais il n'oubliait pas qu'il tirerait peut-être du syndic quelques services importants. Aussi, tout en maugréant à part lui, il ralentit le pas. Au haut de l'escalier, il y avait une antichambre, avec des caisses et des malles qui avaient été mises au pillage. Une lampe qui se mourait dans la cheminée jetait une faible lumière sur le corps d'un homme, mort ou évanoui, étendu en travers du foyer. Quentin, se débarrassant de pavillon sans l'ombre de cérémonie, bondit à travers une seconde et une troisième chambre. Cette dernière semblait être la chambre à coucher des dames de croix. Il n'y avait personne. Il appela Isabelle, d'abord tout bas, puis plus haut, puis avec la violence du désespoir. Mais il ne reçut pas de réponse. Alors il se tordit les mains, s'arracha les cheveux et frappa du pied comme un homme hors de lui-même. À la fin, il remarqua une faible lueur à travers une des fentes du lambris. Il comprit tout de suite qu'il y avait là une cachette, derrière la tapisserie. À force de chercher, il découvrit une porte secrète, mais la porte résista à tous les efforts qu'il fit pour l'ouvrir. Alors, prenant son élan, il se jeta de toute sa force contre le panneau et l'enfonça. Il se trouva dans un petit oratoire. Une femme agenouillée devant la sainte image tomba évanouie sur le sol. Il la releva promptement. Oh, joie des joies! C'était celle qu'il cherchait, c'était Isabelle de Croix. Il la pressa contre son cœur, la conjurant de reprendre connaissance, d'avoir bon courage, car elle était désormais sous la protection d'un homme qui se sentait de taille et de force à la défendre contre toute une armée. Durward, dit-elle en reprenant connaissance. Est-ce bien vrai? Alors il y a encore de l'espoir. Je croyais que tous mes amis m'avaient abandonnée. Ne me quittez plus. Jamais, jamais, dit Durward. Quoi qu'il arrive, quelque danger qu'il faille braver, par mon salut éternel, je ne vous abandonnerai pas, tant que vous serez malheureuse. Très pathétique et très touchant, en vérité, dit derrière eux une grosse voix asthmatique. Une affaire de sentiment, je vois, et de tout mon cœur. J'ai pitié de cette tendre créature comme si c'était ma Trutchen. Vous pouvez faire mieux que d'avoir pitié de nous, dit Quentin, en se tournant vers celui qui venait de parler. Il faut que vous nous assistiez en nous protégeant, Mein Herr Pavillon. Cette dame m'a été expressément confiée par le roi de France, et si vous ne m'aidez pas à la protéger contre toute espèce d'insulte et de violence, votre cité perdra la faveur de Louis de Valois. Surtout, elle ne doit pas tomber entre les mains de Guillaume de la Marck. Ce sera difficile, répondit Pavillon, mais je ferai de mon mieux. Retournons dans l'autre pièce pour que je réfléchisse. L'escalier est étroit, et il vous suffirait d'une pique pour en défendre l'entrée. Pendant ce temps-là, je me mettrai à la fenêtre, et je rassemblerai quelques-uns de nos gaillards de la corporation des tanneurs. Ils sont aussi sûrs que les couteaux qu'ils ont à la ceinture. Mais d'abord, défaites-moi ces attaches, car je n'ai pas mis ce corselet depuis la bataille de Saint-Trond, et je n'ai pas maigri dans l'intervalle. La même chaleur de tempérament qui faisait d'Hermann Pavillon un exalté et un brouillon en politique faisait de lui un bon et brave homme dans la vie privée. Ayant recommandé à Quentin, recommandation superflue, de prendre bien soin de la pauvre petite Jungfrau, il se mit à crier par la fenêtre: Liège, Liège, à moi les braves tanneurs! Les braves tanneurs s'assemblèrent à l'appel du syndic et formèrent bientôt une petite troupe qui monta la garde sous la fenêtre et devant la petite porte. Une tranquillité relative semblait succéder peu à peu au désordre. Toute résistance avait cessé, et les chefs des différentes classes d'assaillants prenaient des mesures pour régulariser le pillage. La grosse cloche sonnait pour rappeler les chefs à un conseil de guerre, et toutes celles de la ville de Liège lui répondaient en signe de triomphe. C'eût été le cas pour Meinherr Pavillon de quitter sa forteresse, mais par égard pour ceux qu'il avait pris sous sa protection, et peut-être aussi pour la sûreté de sa propre personne, il se contentait de dépêcher messager sur messager à son lieutenant, Pétarquin Gessler, pour lui enjoindre de se rendre immédiatement auprès de lui. Enfin Pétarquin arriva, au grand soulagement du syndic, qui dans toutes les occasions se reposait sur lui, qu'il s'agît de guerre, de politique ou de commerce. Pétarquin, mon lieutenant, lui dit son chef, la journée, la nuit, veux-je dire, a été glorieuse. J'espère que cette fois vous voilà content. Je suis bien aise que vous le soyez, dit le brave lieutenant. Pourtant, je ne me serais pas attendu à vous voir célébrer cette victoire, puisqu'il paraît que c'en est une, tout seul dans ce galetas, quand on a besoin de vous au conseil. A-t-on réellement besoin de moi? Dit le syndic. Mais oui, pour soutenir les droits de Liège, qui sont en plus grand danger que jamais, répondit le lieutenant. Pétarquin, répondit le syndic, tu vois toujours tout en noir. Eh bien, je vous dis, maître Pavillon, que ce sanglier fera probablement sa bauge du château de Schoenwald, et que ce sera pour la ville de Liège un voisin aussi mauvais, pour ne pas dire pire, que le vieil évêque. Tout pour lui maintenant que le château est pris, et la seule chose qui l'occupe, c'est de savoir s'il se fera appeler prince ou évêque. Et puis c'est une honte de voir en quel état ils ont mis le vieil homme. Je ne permettrai pas cela, dit Pavillon, prenant feu tout à coup. Je détestais la mitre, mais non la tête qui la portait. Nous sommes 10 contre 1, et nous ne supporterons pas ces manières-là. 10 contre 1 en rase campagne, mais seulement 1 contre 1 dans le château. D'ailleurs, Nickelbloch, le boucher, et toute la canaille des faubourgs ont pris le parti de Guillaume de la Marck. D'abord parce qu'il a fait mettre en Perse tous les tonneaux de bière et tous les tonneaux de vin. Ensuite parce que ces gens-là ont toujours été jaloux de nous autres, gens de métier. Peter, s'écria Pavillon, nous allons tout de suite retourner chez nous. Je ne veux pas rester 1 minute de plus à Schoenwald. Oui, mais les ponts-levis sont levés, maître, dit Gessler. Les portes sont fermées et gardées par des lansquenets. Et si nous essayions de forcer le passage, nous n'en serions pas les bons marchands, car ces gens-là se battent tous les jours, et nous seulement par occasion. Mais pourquoi a-t-il fermé les portes? Demanda le bourgeois alarmé. Et qu'a-t-il besoin de faire prisonniers d'honnêtes gens? Je n'en sais rien, répondit Peter. Le bruit court que les dames de croix se sont échappées pendant l'assaut. Cela a mis l'homme à la barbe hors de lui de fureur. Et maintenant, il est hors de lui d'avoir trop bu. Le syndic jeta du côté de Quentin un regard de découragement, le regard d'un homme qui ne sait à quoi se résoudre. Duroard, qui n'avait pas perdu un mot de cette conversation, vit bien que leur salut dépendait de sa présence d'esprit. Il lui fallait à tout prix soutenir le courage de Pavillon. Il se jeta donc hardiment au milieu de la conversation, comme un homme qui de droit avait voix au chapitre. Je rougis, dit-il, mein Herr Pavillon, de vous voir hésiter sur ce que vous avez à faire. Allez hardiment trouver Guillaume de Lamarque et demandez-lui l'autorisation de sortir du château, avec votre lieutenant, votre écuyer et votre fille. Il n'y a pas l'ombre d'un prétexte pour vous retenir prisonnier. Moi et mon lieutenant, c'est-à-dire moi et Peter. Bon, mais qui est mon écuyer?
Moi, pour le moment, répondit l'Écossais sans hésiter.
Vous, dit le bourgeois avec embarras, mais n'êtes-vous pas l'envoyé du roi Louis de France?
C'est vrai, mais mon message est pour les magistrats de Liège, et c'est seulement à Liège que je leur communiquerai.
Si je reconnaissais ma qualité devant Guillaume de Lamarque, ne serais-je pas forcé d'entrer en négociation avec lui, et ne me retiendrait-il pas? Il faut donc que vous me fassiez sortir du château comme votre écuyer.
Bon, mon écuyer, mais vous parliez de ma fille. Ma fille est, je n'en doute pas, bien tranquille dans ma maison, à Liège, où je voudrais de tout mon cœur et de toute mon âme que son père fût aussi.
Cette dame, répliqua Durward, vous appellera son père le temps que nous serons ici.
Et le reste de ma vie, dit la comtesse, en se jetant aux pieds du bourgeois et en lui embrassant les genoux. Il ne se passera pas de jour que je ne vous honore, que je ne vous aime, que je ne prie pour vous comme une fille pour son père, si vous vouliez seulement m'assister dans ma détresse. Oh, ne soyez pas sans pitié. Voyez en esprit votre fille à genoux devant un étranger, et le suppliant de lui sauver la vie et l'honneur, et accordez-moi la protection que vous voudriez qu'on lui accordât.
En vérité, dit le brave bourgeois touché de cet appel si émouvant, il me semble, Peter, que cette jolie fille a quelque chose de notre Trudchen dans sa charmante figure. Je me suis dit cela tout d'abord, et puis ce joli garçon, si prompt à donner son avis, a quelque chose du fiancé de Trudchen. J'ai parié un gros, Peter, qu'il s'agit ici d'un amour honnête et pur, et ce serait un péché de ne pas venir en aide à ses enfants.
Un péché et une honte, dit Peter, qui, malgré la haute opinion qu'il avait de lui-même, n'en était pas moins le meilleur de tous les Flamands.
Elle sera donc ma fille, reprit Pavillon. Seulement elle aura bien soin de s'envelopper dans son voile de soie noire. Mais on peut m'adresser des questions indiscrètes. Que répondre si l'on me demande ce que venait faire ma fille à une pareille fête?
Et que venait faire la moitié des femmes de Liège quand elles nous ont suivies jusqu'au château?
Leur raison, c'est que c'était précisément l'endroit où elle n'aurait pas dû se trouver. Notre Jungfrau Trudchen aura poussé un peu plus loin que les autres, voilà tout.
Admirablement parlé, dit Quentin. Un peu d'audace, et suivez le conseil de ce brave gentilhomme, mein Herr Pavillon, et vous aurez accompli l'acte le plus chevaleresque que l'on ait vu depuis Charlemagne. Allons, charmante dame, enveloppez-vous de ce voile, surtout de la confiance, et dans quelques minutes vous serez en liberté et en sûreté. Noble sire, ajouta-t-il en s'adressant à Pavillon, en avant.
Arrêtez, arrêtez, arrêtez un instant, dit Pavillon. Je m'y perds un peu. Ce Lamarque est un fou, un sanglier de nature aussi bien que de nom. Et si cette jeune personne était une des dames de croix? Et s'il le découvrait? Et s'il était dans un de ses accès de fureur?
Vous êtes tenue de la protéger, fut-elle duchesse, dit Peter, car vous avez donné votre parole.
Bien, Peter, très bien, dit le syndic. Un honnête homme n'a que sa parole. Mais il nous faut aller prendre congé de ce sanglier, et cette idée ne me sourit qu'à moitié. Si nous pouvions nous dispenser de cette cérémonie, j'aimerais mieux cela.
Eh bien, dit Quentin, ne feriez-vous pas mieux, puisque vous avez du monde sous la main, d'aller à la porte et de forcer le passage?
Pavillon et son lieutenant se récrièrent. Attaquer les soldats d'un allié, sans compter que l'entreprise était plus que hasardeuse. Quentin comprit qu'avec de tels alliés, il ne fallait pas tenter un pareil coup de tête. Il fut donc décidé que l'on irait hardiment trouver le sanglier dans la grande galerie où il était en train de fêter son triomphe. On lui demanderait liberté de sortir pour le syndic de Liège et pour sa compagnie. C'était une requête trop raisonnable pour qu'il pût la refuser. Comme il traversait les cours, jonchés de morts et de mourants, Quentin, tout en soutenant Isabelle à travers ces scènes d'horreur,
lui murmurait à l'oreille des paroles d'encouragement et de consolation, et il lui rappelait que son salut dépendait de son courage et de sa présence d'esprit. Pas de ma présence d'esprit, non, mais uniquement de la vôtre, répondait Isabelle. Oh, si j'échappe aux horreurs de cette nuit terrible, je n'oublierai jamais celui qui m'aura sauvée. J'ai encore une faveur à vous demander. Je vous la demande au nom de la réputation de votre mère et de l'honneur de votre père. Que puis-je vous refuser? Lui demanda Quentin. Promettez-moi de me plonger votre poignard dans le cœur, plutôt que de me laisser prisonnière entre les mains de ces monstres. Quentin promit.